Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à l'écoute du podcast Santé du groupement hospitalier de l'Ouest Lémanique. Sentez-vous bien, notre nouveau podcast vous présentera chaque mois la vie dans nos établissements hospitaliers. Les hôpitaux de Nyon et d'Orole et l'EMS Les Jardins du Léman à Rolles. Avec nos invités, nous évoquerons l'offre de soins, les actions de prévention et tous les événements santé qui font l'actualité autour du Léman. Vous vous retrouvez souvent seul avec des questions de santé ? Vous êtes à la recherche d'informations et d'expertise médicale ? Si vous ne voulez rien manquer des réponses de nos spécialistes médicaux, abonnez-vous à notre podcast sur les différentes plateformes. Notre premier épisode traite de l'accident vasculaire cérébral, ou AVC, qui représente la troisième cause de décès en Suisse et la première cause de handicap sévère dans les pays industrialisés. Un homme sur six et une femme sur cinq seront victimes d'un AVC au cours de leur vie. Pour améliorer la prise en charge des victimes d'attaques cérébrales puis leur rééducation neurologique, l'hôpital de Nyon est agréé stroke unique depuis 2015 et prend en charge environ 350 patients et patientes par an en hospitalisation. Pour mieux comprendre la mission de ces stroke units, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Julien Niederhauser, médecin agréé en neurologie au GOL et directeur de l'unité neurovasculaire. Bonjour docteur.
Bonjour.
Avant d'expliquer plus en détail ce qu'est une stroke unit, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est un accident vasculaire cérébral ou plus communément appelé AVC ?
Pour simplifier les choses, un AVC, finalement, c'est un manque de sang quelque part dans le cerveau qui va conduire à une lésion du cerveau qui peut être transitoire ou définitif. Donc ce manque de sang quelque part dans le cerveau est lié à une occlusion d'une artère qui peut être une artère de petit calibre, quelque part tout en surface du cerveau ou en profondeur du cerveau, ou une artère de gros calibre qui va affecter une région importante du cerveau. Ce qui explique qu'il y a des lésions qui conduisent à des symptômes très limités, donc peu de plaintes du patient, et d'autres qui vont conduire à un tableau beaucoup plus impressionnant avec des déficits importants pour le patient et son entourage.
Est-ce qu'il y a des signes d'alerte particuliers justement qui conduisent à l'AVC ? Qu'est-ce qui peut me poser question ? Je suis peut-être en train de faire un AVC ou que je suis en face de quelqu'un qui a probablement les symptômes d'un AVC ?
Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'un AVC dès qu'on a un symptôme neurologique. Mais en réalité, l'AVC se manifeste par un déficit d'une fonction neurologique d'installation brutale. Ça veut dire qu'on perd une fonction, qu'elle soit la force, la sensibilité, la vision, la parole, l'équilibre. En général, sur une seconde, quelques secondes, donc c'est vraiment une installation brutale d'un déficit neurologique. On peut vraiment différencier ce déficit brutal d'autres atteintes neurologiques qui s'installent sur quelques minutes, qui ne se manifestent pas avec un déficit, mais plutôt avec des symptômes positifs, comme de la migraine, par exemple. On peut avoir une altération de la vision qui vient en quelques minutes, qui se déplace dans le champ visuel, ou on peut avoir des fourmillements qui remontent le long du bras, et tout ça est à différencier d'un AVC qui s'installe sous forme d'un déficit brutalement.
Ce qui veut dire, si c'est brutal, j'ai pas le temps de réagir, j'ai pas le temps de composer le fameux 144, le numéro d'urgence.
Alors évidemment, ça dépend du degré d'atteinte du patient. Si un patient développe un trouble du langage qui n'affecte pas uniquement le langage oral, mais peut-être même la capacité à comprendre ce qu'on doit faire, à réaliser un acte comme composer un numéro de téléphone, à ce moment-là, le patient ne sera peut-être pas en capacité de composer le 144. Et c'est son entourage qui devra le faire. Par contre, il y a des patients qui ont un déficit qui n'empêche pas de parler à l'entourage, d'alerter les proches ou de composer le 144 pour demander une prise en charge en urgence.
Très bien, merci pour ces explications. Quelle différence fait-on entre l'AVC et l'AIT, donc l'accident ischémique transitoire ?
De manière simple, l'accident ischémique transitoire ne laisse pas de séquelles pour le patient. Disons, l'imagerie cérébrale, qu'elle soit par scanner ou par résonance magnétique, ne va pas non plus démontrer une lésion constituée. Donc il y a une souffrance dans le cerveau quelque part lié à un manque de sang qui a conduit à un déficit transitoire de fonction neurologique qui va disparaître en général en moins d'une heure.
Eh bien merci docteur pour ces précisions. Donc comme je le disais en introduction, l'unité neurovasculaire du GOL est certifiée stroke unit et vous êtes présent aujourd'hui donc en tant que directeur de cette stroke unit, et on a également la chance d'avoir avec nous Élise Cadeau-Berger qui est logopédiste à la clinique de la Linière et qui intervient au sein de l'unité neurovasculaire du GOL. Bonjour Élise.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste le métier de logopédiste ?
Alors, les logopédistes, d'une manière générale, s'occupent de tout ce qui touche la communication. Donc, ça va être le langage oral et le langage écrit. Tout ce qui touche aussi la parole, la façon d'articuler les sons, de prononcer les mots. Et puis, tout ce qui touche aussi, ce qui est en général moins connu, tout ce qui touche la déglutition. La capacité des personnes, adultes et enfants, à pouvoir avaler correctement tout ce qu'on peut mettre en bouche pour le manger. Ou même juste la salive dans notre vie de tous les jours.
Très bien, merci pour ces explications. Donc, les logopédistes qui interviennent comme les neurologues, comme les physiothérapeutes, comme les ergothérapeutes, comme les neuropsychologues, dès le début de l'intervention au niveau de la stroke unit. La prise en charge, justement, c'est ce qui a de plus important, ce que nous avons vu tout à l'heure par rapport à l'AVC. Je reviens vers vous, docteur Niederhauser. Vous êtes médecin agréé au GOL depuis 2011, après être passé par le service de neurologie de l'hôpital de Strasbourg, puis du CHUV à Lausanne. En quoi la certification stroke unit qu'on a obtenue ici en 2015 était importante pour le GOL et qu'est-ce qu'elle garantit concrètement pour la patientèle ?
La certification date de 2015, mais les patients qui souffraient d'AVC étaient déjà traités à l'hôpital de Nyon depuis très longtemps. Au début, donc, c'était finalement beaucoup de travail pour nous. L'idée d'avoir une certification, c'est d'avoir des processus standardisés au niveau suisse, avec une dotation personnelle spécialisée qui est plus grande. Ça nous a permis d'engager justement des thérapeutes en rééducation aiguë, logopédistes, neuropsychologues, ergothérapeutes, qui étaient jusque-là absents à l'hôpital de Nyon, et de renforcer l'équipe de physiothérapie. On a aussi renforcé l'équipe de techniciens en électroencéphalographie. On a créé beaucoup de parcours standardisés de patients. Donc les patients ont une prise en charge rapide aux urgences avec réalisation d'une imagerie soit par scanner, soit par résonance magnétique dans les premières heures de leur arrivée avec un diagnostic posé rapidement, un traitement plus adéquat parce qu'il y a un neurologue qui est impliqué 24 heures sur 24 alors que ce n'était pas le cas auparavant. Et puis les études ont montré que les patients évoluaient mieux quand ils souffraient d'un AVC ou d'une hémorragie cérébrale lorsqu'ils étaient hospitalisés dans une stroke unit plutôt que dans un service soit de neurologie générale, soit de médecine interne. On a par exemple un colloque hebdomadaire qui réunit les différents thérapeutes, un médecin rééducateur spécialiste en rééducation avec nos partenaires de la Linière et de l'Avigny, et puis les neurologues, les infirmiers en charge des patients, les médecins assistants en charge des patients. Et on arrive à guider la rééducation aiguë, orienter le patient s'il a besoin d'une rééducation hospitalière, d'une rééducation ambulatoire, discuter des aspects de la conduite automobile, la reprise du travail, et finalement voir le patient dans une approche plus globale que chaque cours de métier séparément comme on faisait auparavant.
C'est ça, parce qu'en fait, il peut y avoir des troubles du langage, des troubles de la marche, enfin, différents types de troubles. Et vous, le fait que vous, tous ces spécialistes médicaux, vous évoluez ensemble, ça vous permet justement de mieux réorganiser, c'est ça, sa prise en charge et du coup, sa rééducation.
Disons, c'est vrai que, par exemple, nous, médecins, peut rater un déficit qui ne nous apparaît pas immédiatement quand on va examiner le patient au lit ou quand on le voit marcher quelques pas, parce que finalement, on ne l'aura pas évalué, soit précisément d'un point de vue langage, mémoire, la manière d'avaler, mais aussi dans les activités de la vie quotidienne, comme font les ergothérapeutes, savoir si un patient est capable de s'habiller, de se laver, comment il réagit dans certaines situations qu'il va rencontrer dès sa sortie de l'hôpital. Donc ça évite finalement de se retrouver avec un patient où nous, on a l'impression qu'il est tout à fait en capacité de rentrer à la maison, alors qu'au final, s'il rentrait, ça serait un échec. Le patient rentrerait à nouveau à l'hôpital ou sa famille serait dépassée par la situation.
Je reviens justement sur la prise en charge et puis surtout ces gestes de la vie quotidienne. Élise, là, je me tourne vers vous parce que c'est peut-être justement là-dessus que vous intervenez également. C'est-à-dire que vous êtes au chevet du patient, vous allez essayer de comprendre et de déceler le moindre trouble qu'on n'aura peut-être pas vu justement de manière médicale.
Oui, alors justement avec les autres thérapeutes qui travaillent aussi, ici c'est vrai que là ça va être notre rôle d'aller chercher plus précisément ce qui pourrait avoir été affecté par l'AVC. En ce qui me concerne, je vais aller tester tout ce dont on a parlé avant, donc tout ce qui est la communication, comment il est encore capable de communiquer, comment est sa parole aussi, comment il arrive à articuler et puis comment il arrive à avaler, à manger. parce qu'on sait que c'est des troubles qui arrivent très très fréquemment après les AVC et qui peuvent passer inaperçus justement quand on passe 5 minutes voir le patient pour parler d'autre chose, parler plus du côté médical. Il y a des patients, on peut dire, qui donnent le change. On les voit comme ça, on se dit que ça va plutôt bien et puis en fait si on approfondit un petit peu, là on se rend compte qu'il y a quand même des difficultés, des troubles qui justement dans la vie quotidienne pourraient être très handicapantes.
Et vous ne pouvez pas être non plus à leur chevet 24 heures sur 24. Comment vous faites par rapport à ce suivi et puis cette surveillance? Vous devez, j'imagine, former vos collègues, vous devez aussi les informer sur ces sujets-là pour qu'ils soient attentifs à ce genre de signes?
Surtout pour ce qui est de la déglutition, justement. Il y a quand même tout un protocole qui est établi avec des tests assez précis que les soignants doivent effectuer tous les jours auprès du patient, parce que nous, on ne peut pas forcément, en effet, si le patient arrive à 2h du matin ou ben voilà, un moment où nous, on n'est pas là, on ne va pas pouvoir tout de suite lui faire les tests de déglutition et il faut qu'au bout d'un moment, on puisse voir si on peut le nourrir ou au moins lui donner à boire. Tous les soignants, normalement, sont formés à ça, au premier test de déglutition. Nous, on essaye de les reformer régulièrement. Il y a des petites formations à l'interne très régulièrement dans tous les services parce que finalement, tous les services sont concernés. Tout le monde doit pouvoir être capable de détecter justement s'il y a des signes de fausse route et prendre les bonnes premières décisions, les bonnes premières préconisations pour mettre le patient dans les meilleures conditions, éviter de le mettre en danger jusqu'à ce que nous, on puisse venir faire une évaluation plus formelle, plus approfondie et qu'on puisse mettre en place tout ce qui convient pour que le patient puisse remanger, parce que voilà, le but c'est quand même dans tous les cas de lui redonner une qualité de vie la meilleure possible.
On a l'impression que ce sujet de fausse route silencieuse, justement, c'est quelque chose de particulièrement important. Vous mettez beaucoup d'énergie là-dedans dans la formation. Pour quelle raison?
Alors justement, il faut savoir que les pneumopathies, donc les pneumopathies, ce sont des infections au niveau pulmonaire qui sont dues à l'inhalation des aliments ou de l'eau que vous allez consommer et qui passent finalement dans les poumons plutôt que de passer dans l'œsophage pour aller vers l'estomac. Et en fait, ces pneumopathies, c'est quand même la deuxième cause de décès post-AVC. Donc c'est vraiment quelque chose contre laquelle il faut lutter pour pouvoir lutter contre ça, pour que les gens puissent se rendre compte qu'il y a ces inhalations qui peuvent, comme vous avez dit, parfois être silencieuses. Il faut les former à reconnaître tous les petits signes. Ça va être les yeux qui vont se mettre à pleurer finalement quand le patient vient d'avaler. La toux, ça on peut tous s'en rendre compte, c'est facile. Plein d'autres petits signes comme ça qu'on essaye de montrer aux soignants, qu'on essaye un petit peu de tester ensemble pour être sûr qu'on passe le moins possible à côté de ces inhalations, voilà, qui peuvent avoir des conséquences vraiment, vraiment terribles pour les patients.
Et vous, docteur, vous êtes 3 médecins neurologues sur l'hôpital de Nyon, donc avec la doctoresse Fisch et puis le docteur Toledo. Vous intervenez également, vous repassez voir cette patientèle, j'imagine. Enfin, vous avez une présence 24-24, c'est ça, grosso modo, avec un système de garde?
Donc nous, on fait la visite tous les jours, en semaine, et puis donc le week-end, la nuit, les jours fériés, on est piqué, ça veut dire qu'on peut se rendre sur place en 35 minutes. On supervise les traitements aigus de l'AVC dans les premières minutes, ça veut dire que là, on n'a pas de latence pour l'intervention, on peut intervenir heureusement à distance, en supervisant des médecins formés sur place. Et puis, donc oui, on va suivre ces patients tout au long de leur hospitalisation pour essayer justement de leur redonner le maximum d'autonomie, notre rôle étant aussi de trouver la cause de cet AVC. Parce que finalement, bah, y a deux aspects. Il y a l'aspect « je suis un patient, j'ai un déficit, j'espère m'en sortir le mieux possible, je vais faire de la rééducation ». Mais il y a l'aspect « quelle est l'origine de mon AVC et comment je fais pour éviter que mon AVC revienne ». C'est vrai que les patients, finalement, quand ils sont hospitalisés peu de temps, ils ont peu de déficit, ils ne se rendent pas vraiment compte qu'ils ont eu un problème grave. Et ils ne se rendent pas vraiment compte non plus de l'importance de tout le bilan pour éviter la récidive. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie du bilan médical, mais aussi de l'éducation thérapeutique, qui est un aspect très important aussi pour les patients.
D'accord, parce que justement, dans cette rééducation pluridisciplinaire qu'on a détaillée tout à l'heure, avec les ergos, avec les physios, les logopédistes, justement, qui démarrent en fait dès le lendemain de l'accident, le rythme est quand même assez soutenu. Comment vous faites également chacun et chacune pour gérer la fatigue? Parce qu'on sait qu'un AVC, c'est quand même traumatisant.
Alors c'est vrai que c'est un facteur qu'on doit prendre en compte tout de suite. D'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qu'on précise, nous, dans tous nos rapports de bilan. C'est vraiment quelque chose d'important et c'est aussi quelque chose qui va être important pour la suite quand on va discuter ensemble durant ces colloques de ce qu'on peut proposer aux patients à la sortie de l'hôpital. Si on veut pouvoir les envoyer dans des centres de rééducation, justement, enfin de réadaptation neurologique, il faut qu'on estime qu'ils vont être capables de suivre une rééducation qu'on pourrait considérer intensive, parce qu'il faut qu'ils puissent participer plusieurs fois par jour à des séances de logopédie, d'ergothérapie, de physiothérapie. Donc on s'assure justement qu'ils ne soient pas trop fatigables au moment de sortir. Et puis quand on est vraiment dans cette phase aiguë, l'avantage c'est qu'on est très complémentaires dans nos interventions. Mes collègues physio, ergo vont s'intéresser à l'ensemble du corps, au côté moteur, au côté praxique, au côté sensitif. Donc là c'est vrai que ils vont pouvoir essayer de les mettre debout, de leur faire des choses comme ça, faire des tests un petit peu de force dans les membres, enfin voilà, tout ce genre de choses. Moi en général ils peuvent rester assis. On va déjà beaucoup discuter dans la mesure du possible, mais moi, je vais déjà beaucoup discuter, échanger avec eux, les faire boire, des choses comme ça. Donc, ça peut être très fatigant si vraiment le patient est très fatigable, mais ça va être très différent. Ça va être, si je vois que le physio vient d'aller voir le patient, je vais m'arranger pour lui laisser un petit moment de pause quand même et retourner le voir peut-être une demi-heure, une heure après. La plupart du temps, on arrive à s'adapter, à communiquer entre nous et se dire ben, « moi, je viens d'aller voir ce patient, je le trouve fatigué, peut-être laisse-lui un petit temps pour récupérer ». Et de toute façon, ça va être des informations importantes pour nous.
Alors pour rappel, justement, en Suisse, on dénombre environ 16 000 attaques cérébrales par an, ce qui représente quand même une attaque cérébrale, un AVC, toutes les 30 minutes. Donc c'est un chiffre quand même qui est assez conséquent. Quelle est la proportion de personnes qui se remettent totalement finalement par rapport à la prise en charge? Est-ce que ça va dépendre du temps de prise en charge? Est-ce que ça va dépendre de la gravité de l'AVC? Quels sont un petit peu les faits qui nous permettent derrière de savoir comment on peut reprendre une vie avec plus ou moins de symptômes?
Donc les chiffres que vous avez cités sont issus de la Fondation Suisse de Cardiologie qui tient à jour des chiffres suisses. C'est plus difficile de connaître la réalité locale. Pour le devenir des patients dans un AVC aigu, on a la possibilité de faire un traitement qu'on appelle de thrombolyse intraveineuse ou de thrombectomie mécanique. La thrombolyse intraveineuse, finalement, c'est donner un médicament par la veine qui va dissoudre si possible, le caillot qui se trouve dans une artère du cerveau. Donc on donne par une veine du bras un médicament qui est censé dissoudre très rapidement le caillot qui va boucher l'artère responsable de l'AVC. L'idée étant de rétablir le flux sanguin artériel et de minimiser autant que possible les dégâts durables pour le patient et le handicap qui va en résulter. La thrombectomie mécanique, par contre, c'est un traitement qui ressemble à, si on veut, à la coronarographie. Donc c'est un cathétérisme qui se fait par l'artère fémorale, donc avec un cathéter qui est monté mécaniquement à travers toutes nos artères pour aller jusqu'au cerveau et déboucher l'artère qui est occluse. C'est pas nous qui faisons ça localement, on envoie les patients au CHUV, on a un contrat de collaboration pour ça, avec une équipe qui est très performante au CHUV. Donc la thrombolyse intraveineuse, elle est possible dans les 4h30 après le début des symptômes. On a des techniques pour évaluer quand a commencé l'AVC, si un patient par exemple se réveille avec les symptômes suggestifs d'un AVC, parce qu'au réveil on ne sait pas si ça s'est produit en fin de nuit, en début de nuit. Donc on a des techniques par imagerie qui nous permettent de dater l'AVC et d'estimer le tissu qui peut être sauvé ou non. Et puis, par contre, la thrombectomie mécanique peut se réaliser dans les 8 heures, les 8 premières heures après un AVC. D'où l'importance de remarquer rapidement que les symptômes correspondent éventuellement à un AVC, de contacter les services d'urgence et d'être traité très vite.
C'est là le gros avantage d'avoir une stroke unit, comme nous l'avons à Nyon. C'est-à-dire que la personne qui est amenée à Nyon, nous ici, on sera en capacité très rapidement de dire quel est le traitement qui doit être donné à cette personne. Et ensuite, donc, soit de le faire à l'interne, soit de l'aiguiller vers le CHUV, comme vous disiez, pour la deuxième option.
Et d'ailleurs, les patients qui sont reconnus comme des victimes potentielles d'un AVC par les services préhospitaliers comme les ambulanciers, les médecins smuristes, ne sont plus acheminés dans les autres hôpitaux, si on est dans la fenêtre de traitement aigu, que les hôpitaux certifiés Stroke Unit ou Stroke Center, c'est-à-dire dans notre région, Genève, donc les HUG, Lausanne, le CHUV et Nyon. Parce que finalement, c'est une perte de chance pour les patients d'arriver dans un centre qui peut reconnaître à juste titre que le diagnostic est celui d'un AVC, mais qui n'a pas les moyens sur place d'offrir le traitement adéquat pour le patient.
C'est une étude justement qui a été récemment menée par l'université de Bâle pour la Fondation Suisse de Cardiologie a été très intéressante parce qu'elle détaillait le temps moyen de prise en charge justement entre la porte et le traitement, c'est ce fameux terme anglais « door to needle » que vous nous expliquerez juste ensuite. En moyenne, c'était 40 minutes pour les stroke centers et stroke unit en Suisse, donc ça c'est une moyenne. Et à Nyon, il a été estimé, calculé en tout cas, à seulement 30 minutes. Comment vous expliquez cette rapidité pour le door to needle ici ?
Comme vous le dites, c'est le temps entre l'arrivée du patient aux urgences, en général par les ambulanciers ou par ses propres moyens, et le moment où le patient reçoit la thrombolyse par la veine. Donc ça comprend l'évaluation par les médecins des urgences, la supervision par le neurologue, la réalisation d'un premier scanner ou d'une IRM, et puis la décision de traitement ou pas. Et ce temps relativement court à Nyon s'explique probablement par une équipe qui est aussi peut-être plus petite taille que dans les hôpitaux universitaires, avec moins de personnes informées, des procédures qui sont peut-être plus régulièrement enseignées, et puis peut-être même une distance géographique entre les différents services qui est plus courte. Hein. Donc certainement que entre l'arrivée des urgences dans un hôpital universitaire et la radiologie, le chemin est plus long que dans un hôpital de taille moyenne comme Nyon. Donc probablement que tout ça explique les performances qui sont bonnes, mais les autres centres font très bien aussi.
Oui, c'est cette flexibilité qu'on a effectivement qui est importante. En fait, il y a une chose à retenir finalement, c'est la rapidité tout au long de la question de l'AVC. J'ai l'impression dans cet épisode, on aura beaucoup parlé de ça, c'est de la rapidité de la prise en charge et puis de la rapidité de la récupération qui peut être faite en fait dès le lendemain de l'AVC où justement une stroke unit vous permet justement d'être bien prise en charge très rapidement.
C'est ça, nous on peut déjà s'appuyer sur cette période de récupération spontanée qu'on peut avoir dans les jours, les semaines après l'AVC. Nous on peut déjà venir appuyer cette période de récupération en proposant déjà les bons exercices, les bons entraînements aux patients pour avoir des progrès déjà bien plus probants dès les premiers jours, les premières semaines, et puis que le relais puisse se faire correctement avec les différents centres si le patient doit avoir un suivi derrière.
On sait que malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux par rapport à la maladie, donc par rapport aussi à l'accident vasculaire cérébral. Parlons rapidement de la prévention pour conclure. Quelles sont les préconisations médicales qu'on pourrait donner pour prévenir au mieux l'AVC ?
Souvent, on parle de l'hygiène de vie. Hein, donc je pense que c'est une notion relativement diffusée dans la population. Je pense que l'hygiène de vie, c'est ce qui est finalement important pour beaucoup de maladies, entre autres pour l'AVC. Et donc, on recommande de ne pas fumer, si c'est possible. Si les gens fument, d'arrêter de fumer, si c'est possible. De réfréner un peu la consommation d'alcool qui, habituellement, est un peu au-dessus des recommandations mondiales dans la région. Ensuite, c'est important, peut-être déjà depuis l'âge de 40 ans, dépister l'hypertension artérielle. Parce que c'est une maladie très fréquente, silencieuse. Et si on ne va pas faire de contrôle, on ne saura pas qu'on est hypertendu. Malheureusement, nous, on a des patients qui arrivent, qui n'ont aucun médicament, qui ont présenté soit une hémorragie cérébrale, soit un accident vasculaire cérébral, un AVC, qui nous disent « jusque-là, j'étais en parfaite santé ». Mais ils n'étaient jamais allés voir un médecin. Donc c'est sûr que si on ne va pas voir un médecin, on ne va jamais faire des contrôles de santé dans une pharmacie, on n'a pas de contrôle de santé au travail. On ne peut pas savoir qu'on est malade, on ne peut pas savoir qu'on est hypertendu, on ne peut pas savoir qu'on est diabétique. Probablement que c'est important de faire des contrôles de santé sous différentes formes, peut-être une fois par année, de réguler son hygiène alimentaire, ses différentes habitudes. Et on recommande, si possible, une certaine activité physique. Donc l'activité physique est bonne, on n'a pas besoin forcément de transpirer. L'idée, c'est de faire... l'OMS recommande 3 fois 45 minutes par... semaine d'une activité modérée, ça peut être la marche un peu rapide, on est légèrement soufflé, ça peut être la natation, on n'a pas besoin de transpirer, on n'a pas besoin de faire la compétition, c'est une activité modérée.
Du vélo, des choses comme ça.
Tout à fait. Et puis dans la vie tous les jours, c'est encore mieux.
Le message, hein, quels que soient un petit peu les risques ou les effets ressentis, c'est parlez-en toujours à votre médecin traitant, n'hésitez pas surtout à ouvrir le dialogue dès que vous avez un doute sur votre état de santé ou sur quelque chose d'anormal, le médecin traitant, c'est la porte d'entrée. Et puis après, il saura vous aiguiller vers les différents spécialistes médicaux qui pourront vous accompagner par la suite.
Malheureusement, le système de santé change et il y a beaucoup de patients plus jeunes qui n'ont pas de médecin traitant. Ces patients-là, les habitudes, c'est plutôt de venir aux urgences ou dans une permanence quand il y a un bobo. Mais il faudrait aussi venir dans une pharmacie ou dans un centre de dépistage ou dans des campagnes de santé qui sont organisées, mais de se dire, ben voilà, une fois par année, je fais un dépistage. L'hypertension augmente de 3 fois le risque de faire un AVC. Le diabète, c'est plutôt moins de 2 fois. Le tabac, c'est 2 fois. Donc, chaque facteur de risque a un poids différent. Et c'est vraiment important de focaliser l'attention sur les facteurs les plus importants, comme l'hypertension.
On a également des outils en ligne qu'on peut conseiller également. Il y a l'application en ligne Stroke Riskometer, que vous pourrez trouver sur le site www.strokeriskometer.com, qui, elle, permet d'estimer approximativement un risque d'AVC entre 5 à 10 ans. Donc, ça peut toujours être intéressant également pour avoir une première approche. Et puis, il y a la Fondation Suisse de Cardiologie qui, elle, a lancé une application qui s'appelle Urgence Help, donc H-E-L-P comme aide, qui aide à réaliser les premiers secours en cas d'attaque cérébrale ou d'arrêt cardio-circulatoire et aussi à alerter les secours au numéro d'urgence 144. Hein, c'est le numéro qu'on rappellera jamais assez en cas de doute par rapport à un AVC composé très rapidement, le 144. Nous arrivons au terme de ce premier épisode. Je remercie chaleureusement le docteur Niederhauser et Élise Cadeau-Berger pour votre participation à ce podcast et puis votre éclairage médical sur le sujet. C'était très intéressant. Merci à tous également, chers auditeurs et chères auditrices, d'avoir été au rendez-vous et jusqu'au terme de l'épisode. Pour nous soutenir et contribuer à un lancement réussi, n'hésitez pas à laisser un note et un avis sur votre plateforme de podcast favori. Vous pouvez également nous laisser un commentaire en mentionnant les différents sujets santé qui vous tiennent à cœur pour que nous en parlions dans les prochains épisodes avec nos spécialistes santé. À bientôt et d'ici là, sentez-vous bien.